7h sur France Culture. Excellent réveil si vous nous rejoignez. Nous sommes le mercredi 26 octobre 2016 et voici le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Après Mossoul en Irak, le prochain objectif sera la ville de Raqqa, bastion syrien du groupe État islamique. Stratégie définie par la coalition internationale au 10e jour de l'offensive. Dans ce journal, le reportage de notre envoyé spécial Philippe Randet.
Une baisse historique du chômage en France.
C'est ainsi que les chiffres de Pôle emploi ont été présentés hier. Près de 2% de baisse en septembre, avec un recul du nombre de chômeurs de 1,7% sur un an. Des chiffres à nuancer, analyse à suivre avec Maxime Fayol. Le chômage des jeunes en Europe, cette fois ce sera l'objet de la chronique économique de Jean-Marc Chardon à 7h13.
D'autres chiffres à la une ce matin, ceux de la primaire de droite.
Des chiffres qui ne feront pas plaisir au camp de Nicolas Sarkozy, selon une étude du CEVIPOF de Sciences Po et de l'Institut Ipsos. Alain Juppé gagnerait encore 4 points sur son rival avec 40% des intentions de vote. Que faut-il penser de ces estimations? Un décryptage signé Stéphane Robert dans un instant. Dans ce journal, nous irons aussi en Espagne où le conservateur Mariano Rajoy va former son gouvernement. Et en Haïti, 3 semaines après les ravages de l'ouragan Matthew, une entreprise française lance le reboisement de l'île.
Et la question du jour, l'obésité est-elle devenue en France un marqueur social? Le sujet du jour, le président François Mitterrand est-il aujourd'hui un modèle?
Nous partons tout de suite en Irak, où les forces de la coalition ne sont plus qu'à 2 km de l'est de Mossoul, la capitale autoproclamée du groupe État islamique. Depuis le début des opérations, près de 90 localités ont été reprises, selon l'armée irakienne. Hier, les troupes ont dû cesser leur progression pour attendre l'arrivée de renforts et consolider les positions conquises. Sur place, le reportage de notre envoyé spécial Philippe Randet.
C'est la bataille la plus difficile que j'ai connue. Allongé sur son lit avec un grand pansement sur le visage, Karwan se remémore le moment précis où lui et ses amis Peshmerga ont pénétré dans le village accueilli par un sniper djihadiste.
Ce n'était pas un sniper classique, il était très expérimenté et n'a raté aucun de ses tirs. Et puis, soudainement, une voiture piégée qui était cachée dans le village nous a foncé dessus au milieu d'un groupe de 30 Peshmerga. Tout ce dont je me souviens, c'est que j'ai tourné la tête et ça a explosé. À ce moment, mon père est venu vers nous et le sniper lui a tiré dessus.
Et pendant que Karwan boit difficilement quelques gorgées de thé, son père, soigné à côté de lui, se remémore lui aussi ses quelques secondes en enfer.
J'ai réussi à tenir debout, je sentais le sang gicler de mon épaule. Puis je suis allé vers ma voiture. Si j'étais tombé, le sniper m'aurait achevé.
Finalement, Aziz est vivant et n'a qu'une envie, repartir sur le front avec son fils.
Daesh, ce sont des kamikazes qui n'ont rien d'humain. Ce sont juste des gens qui veulent mourir. Ils ne se battent plus face à face, les armes à la main. Je suis sûr qu'avec une bonne coopération et une bonne préparation, Daesh peut être totalement détruit en Irak.
Un peu plus loin, dans le couloir de l'hôpital, un responsable kurde distribue des bouquets de fleurs aux familles des victimes. À la question « Combien sont-elles ? », la réponse est toujours la même. Pas de bilan officiel.
Philippe Randet, notre envoyé spécial en Irak, avec les moyens techniques de Raymond Albouy. La coalition internationale s'est réunie hier à Paris avec 13 ministres de la Défense. Elle a défini le prochain objectif de l'offensive, Raqqa, bastion du groupe État islamique en Syrie. À 7h36, nous irons dans une autre ville martyre, Alep, dont les quartiers est sont assiégés depuis 4 mois par les forces du régime de Damas. L'ONG Amnesty International dénonce aujourd'hui les morts causées par la coalition menée par les États-Unis dans ces opérations en Syrie. Elle aurait recensé plus de 300 civils tués dans 11 attaques depuis septembre 2014. C'est la plus forte baisse du chômage depuis 20 ans en France, selon les chiffres publiés hier soir. Le nombre de personnes inscrites en catégorie A recule de presque 2% en septembre, après 2 mois consécutifs de hausse. Mais en y regardant de plus près, Maxime Fayol, l'étude des différentes situations montre des résultats bien plus contrastés.
Il faut s'intéresser au nombre total, toutes catégories de chômeurs confondues, pour se rendre compte que le chômage ne recule pas. Il y a plus de 6 200 000 personnes inscrites à Pôle emploi, un chiffre certes en diminution par rapport au mois dernier, mais qui progresse de 2% sur un an. Cela représente 125 000 inscrits supplémentaires. Alors pourquoi la catégorie A, la catégorie la plus médiatique, est-elle la seule à afficher un recul, assez net sur un an d'ailleurs, de 1,7%? Eh bien car le gouvernement a mis les bouchées doubles sur les entrées en formation. En début d'année, François Hollande a décidé de doubler leur nombre de 500 000 à 1 million d'ici la fin d'année. Et quand un chômeur est en formation, il sort de cette catégorie A pour rejoindre la catégorie D. Il suffit alors de se pencher sur les chiffres de cette catégorie pour s'apercevoir du trompe-l'œil. En un an, cette catégorie a bondi de plus de 16%. Et Pôle emploi confirme cette statistique. Le nombre de chômeurs dans les catégories ABC qui entrent en formation progresse de plus de 85% en un an. L'accent a donc largement été mis sur les entrées en formation et notamment chez les plus jeunes. Ce sont en effet les moins de 25 ans qui ont principalement déserté la catégorie A.
Maxime Fayol. François Hollande tentera de calmer la colère des policiers ce soir. Le chef de l'État les reçoit via leurs organisations syndicales à l'Élysée à 18h pour essayer d'enrayer le mouvement de protestation déclenché après l'agression de quatre policiers à Viry-Châtillon en banlieue parisienne. Manque d'effectifs, manque de reconnaissance, manque d'équipement. Les motifs sont nombreux de la part des agents, alors même que la défiance face à leurs représentants syndicaux est mise en avant lors des rassemblements nocturnes qui ont lieu depuis le 17 octobre. Face aux sondages, il y a ceux qui répètent qu'il ne signifie rien et ceux qui déclarent avec un léger sourire que la tendance révèle une dynamique. Pour la primaire à droite, des 20 et 27 novembre prochains, les choses semblent bien se préciser et se cristalliser selon l'enquête mensuelle réalisée par l'Institut Ipsos et le CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française, publié hier. Alain Juppé creuserait encore un peu plus l'écart sur son rival et adversaire Nicolas Sarkozy. Il recueillerait désormais 40% des intentions de vote, en hausse de 4 points contre 31% pour l'ex-président, en baisse de 3 points. François Fillon et Bruno Le Maire resteraient loin derrière avec 12 et 11% d'intention de vote. Alors quel crédit accorder à ces chiffres ? L'analyse de Stéphane Robert.
Cette enquête Ipsos-CEVIPOF associe de sérieux qu'elle est réalisée sur un panel de 17 000 personnes, ce qui permet de dégager un autre panel de 1 200 personnes qui se disent sûres et certaines d'aller voter. Mais au bout du compte, dans un mois, qui réellement va se déplacer ? Ça reste très aléatoire. C'est pourquoi les juppéistes, comme Hervé Guémard, restent extrêmement prudents. Il ne veut y voir qu'un élément à peu près fiable. Il y a, selon lui, une dynamique en faveur d'Alain Juppé.
Moi, je sens qu'il y a de l'intérêt pour la candidature d'Alain Juppé, qui s'est accrue au fil de ces dernières semaines. On le voit dans les réunions où des gens qui ne sont pas forcément convaincus viennent aux nouvelles, si je puis dire. Mais il n'est pas sûr que ça se traduise en résultat. Donc nous sommes sur le mode de mobilisation.
Tout ça a quand même le don d'agacer les partisans des autres candidats, notamment des fillonistes, comme le député du Loiret Serge Grouard. Lui, au-delà des incertitudes qui entourent ses enquêtes d'opinion, craint qu'à force, elles finissent par influencer les électeurs.
Je trouve qu'il y a quelque chose de pernicieux là-dedans. C'est toujours la même petite musique. Il y a un ou deux candidats en tête et l'élection est pliée. Non, c'est pas fait. Ça sera fait le dimanche soir du vote et le dimanche suivant.
Mais c'est peut-être du côté des sarkozystes qu'on est le plus inquiet, parce qu'elles sont têtues, ces enquêtes d'opinion. Et le député du Rhône, Georges Fenech, reconnaît qu'elle ne place jamais son candidat Nicolas Sarkozy en position de l'emporter.
On ne peut pas effectivement ne pas remarquer qu'il y a une tendance toujours de porter Juppé en tête. Ceci dit, ça c'est le premier tour, ensuite il y a un second tour. Et donc les choses peuvent encore largement évoluer en faveur aussi de Nicolas Sarkozy. Je pense qu'à partir du moment où il y aura deux politiques, deux lignes vraiment clairement affichées qui vont s'affronter, à ce moment-là, le choix sera clair.
Et puis il ne faut pas oublier qu'il reste presque un mois de campagne et deux débats télévisés.
7h08 sur France Culture, la suite du journal. Les discussions sur le CETA devraient reprendre aujourd'hui en Belgique, Sophie Delpont.
Oui, après le vote négatif du Parlement de Wallonie qui a rejeté le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. La visite du Premier ministre canadien est toujours maintenue demain pour la signature, alors que le Premier ministre belge Charles Michel a encore déclaré hier qu'il ne savait pas s'il pourrait obtenir un accord de ce Parlement avant la cérémonie à l'issue de 6 heures de pourparlers hier. Le roi d'Espagne a officiellement proposé à Mariano Rajoy de se soumettre à l'investiture du Parlement. Le Parti socialiste a décidé de s'abstenir lors du vote, ce qui, mathématiquement, ouvrira la voie à un deuxième mandat du leader de la droite espagnole. Mathieu de Taillac nous appelle de Madrid.
Son investiture ne fait guère mystère. Samedi soir, probablement dimanche au plus tard, Mariano Rajoy aura obtenu la confiance de la Chambre. 137 députés de sa formation, le Parti Populaire, le PP de droite, 32 centristes de Ciudadanos et une députée d'un petit parti des îles Canaries. 170 oui, donc, dans un Parlement de 350 sièges, et bien sûr l'abstention du Parti Socialiste, du PSOE. Même si certains se rebellent contre la consigne de vote du parti, le gros des troupes permettra à Rajoy d'entamer un second mandat. Et après, il faudra à chaque loi convaincre les centristes, les socialistes ou des partis nationalistes basques ou catalans. Fini le bon temps pour lui de la majorité absolue, du rouleau compresseur comme critiquait l'opposition. Le Parti socialiste pourra parfois s'allier avec, à sa gauche, Unidos Podemos et à sa droite, Ciudadanos, pour s'opposer aux propositions de la droite, voire pour défaire les mesures les plus critiquées de ces dernières années. Loi sur l'éducation, loi sur la sécurité, dite loi muselière, et autres mesures d'austérité. Rajoy a déclaré qu'il savait que cette législature sera celle du dialogue. Le diagnostic est lucide, mais Rajoy n'a pas l'habitude des débats et des compromis. La législature commence, oui, mais nul ne sait quelle sera sa stabilité, ni même sa durée.
Mathieu de Taillac. Après l'ouragan Matthew, Haïti tente de se reconstruire 3 semaines après la catastrophe. L'île est ravagée par une épidémie de choléra et son agriculture est à terre. 75 à 90% de pertes sur les récoltes dans la partie sud de l'île. Une entreprise française lance un programme d'urgence pour reboiser Haïti, Louise Rollet.
Pierre-Louis Bonnet a tout perdu. Il est cultivateur de cacao à Dame Marie, dans le département de la Grande Anse, dans le sud d'Haïti.
L'ouragan Matthew a tout détruit. Ma maison, mes animaux, mes champs, mes agroforestiers, tout sont détruits. Il ne reste plus rien.
25 ans qu'il est dans le métier et il n'a jamais vu une telle catastrophe. Alors pour l'aider, lui et les autres cultivateurs, la société française Reforest Action a lancé son programme des arbres pour Haïti. Le but, appeler le grand public à financer des cacaoyers et des bananiers. Il faut relancer l'économie agricole, estime Stéphane Allaire, président fondateur de Reforest Action.
La grande problématique à laquelle on souhaite répondre avec notre programme d'urgence pour Haïti, c'est bien sûr l'alimentation courant 2017 pour l'après-crise. Et puis rétablir l'économie maraîchère et agroforestière avec la plantation de cacao.
C'est dans le sud de l'île que se concentre la majorité des productions agricoles. Toutes les pertes ont donc une incidence sur l'alimentation.
C'est la partie la plus fertile du pays et qui vient alimenter notamment Port-au-Prince en aliments, en fruits et en légumes. Et il y a donc un risque de famine pour ces prochaines semaines.
Reforest Action espère atteindre son objectif de 50 000 cacaoyers et bananiers replantés.
Le temps, de la brume ce matin sur l'ensemble du territoire, plus de soleil sur le nord et le long des Pyrénées, plus de soleil davantage dans cet après-midi. Température 10 degrés à Amiens, 11 à Chambéry, 12 à Paris et Châteauroux, 13 à Bordeaux, 19 à Nice et jusqu'à 23 degrés sur la Corse.